Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. L'écologie est-elle uniquement une préoccupation des classes aisées ? Pas si simple si nous regardons les choses de plus près. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Edith Gaillard, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Bretagne occidentale. Mais tout d'abord, direction le quartier de Maurepas, à Rennes, où le syndicat Front de Mer a organisé une rencontre dans le cadre de la 4e édition d'un événement intitulé « Les dingueries de la Terre ». Au cœur de cette rencontre, l'idée d'une écologie pirate, une écologie ancrée dans les quartiers populaires, pensée comme un outil d'émancipation face aux inégalités sociales et environnementales. C'est un reportage signé Romane Hubert et Estelle Vasquez de SILAB, votre radio associative universitaire à Rennes et dans sa région.
Il est 17h, on vient tout juste d'arriver au pôle associatif Marbaudet dans le quartier de Maurepas à Rennes. Et dans le hall, un brouhaha joyeux nous attire vers le premier atelier, la cuisine. Au fond de la pièce, une grande table s'anime, marmites et planches à découper s'alignent, tandis qu'une quinzaine d'enfants coupent des butternuts et creusent des citrouilles. Ce soir, au menu, c'est soupe.
Je m'appelle Fatima, on a coupé des courges, on les a mis dans des casseroles et aussi dans des bols, et puis on les a lavés pour faire une soupe. Je suis venue toute seule.
Je vais presser le jus d'orange.
Ouais, avec
le pressage.
Et je découpe des légumes. On va faire une soupe. Ma copine, elle est venue et elle m'a dit « Imane, viens, on va faire de la soupe ». Et donc, du coup, je suis venue et j'ai fait. Je voulais participer parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la cuisine. Et à la fois, j'ai tout le monde.
On fait un atelier, c'est... En fait, on doit couper les oranges et après les presser. Sur la presseuse, après, quand le bol est rempli, on doit le mettre sur le bûcher. Ça m'apprend des choses.
Je suis en train de couper des légumes et maintenant, je vais les laver.
Comment on fait ? Tu peux me montrer ?
Un atelier porté par le GRPAS, le groupe de pédagogie et d'animation sociale. Pour eux, l'idée, c'est de créer du lien autour de la cuisine parce que c'est simple, amusant et accessible. Mais derrière cette soupe, il y a une démarche d'écologie populaire. Populaire parce que ça s'adresse aux habitants et aux habitantes du quartier et à celles et ceux qui n'ont pas toujours accès à des produits de qualité. Et écologique parce que dans cette soupe, tout est bio et en récup. Les légumes d'ailleurs ont été apportés par le réseau de ravitaillement des luttes. Camomille du collectif nous explique que les produits viennent de champs de maraîchage autogérés, cultivés collectivement.
La question de l'alimentation, c'est vraiment un énorme reflet des inégalités sociales et qu'en fait, nous on n'a pas envie de promouvoir un modèle de société où les gens qui ont de la thune, ils peuvent consommer bio, ils peuvent consommer éthique. Les gens qui n'ont pas de thune, ils sont contraints d'aller bouffer chez Lidl ou d'aller bouffer des trucs de récup alimentaire tout pourri, quoi. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ça, nous, ce qu'on a envie, c'est que tout le monde bouffe bien, tout le monde bouffe correctement. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Notre modèle d'organisation politique, c'est l'autogestion. Donc, c'est les personnes concernées qui s'organisent entre elles pour subvenir à leurs besoins et développer de la solidarité.
Le collectif, lui, ravitaille chaque semaine 150 foyers en distribution alimentaire à prix libre. Participer à cet atelier cuisine, pour eux, c'est aussi une façon de se faire connaître et développer leur maraîchage collectif. Autour de la table, un participant connaît bien le sujet. On rencontre Eddy, habitant de Maurepas, originaire du Cameroun et aujourd'hui demandeur d'asile. Il nous raconte avoir lancé le collectif des agriculteurs migrants de Rennes et le collectif des agriculteurs philanthropes du 35. Des associations ouvertes aux personnes sans activité professionnelle avec une idée simple, cultiver ensemble, redistribuer aux plus vulnérables et permettre à toutes et à tous d'avoir accès à une alimentation saine sans dériver de produits chimiques.
Tant que tu vis, tu dois toujours vivre de l'injustice. Et aujourd'hui que nous sommes confrontés à des classes de prolétaires et bourgeoisie, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas capables de se procurer ce qu'ils veulent en alimentation. Bon, ils sont obligés d'aller peut-être prendre des invendus. Ce sont des résidus des riches. Et c'est ça l'injustice. Dans l'alimentation, c'est ça l'injustice.
Vous êtes bien installé ?
45 minutes plus tard, l'atelier cuisine touche à sa fin. Dans les odeurs de soupe, nous nous faufilons vers le prochain atelier des dingueries de la terre, la causerie. Sur le chemin, nous croisons Elisa, mère engagée au sein du syndicat. À notre grande question, qu'est-ce que l'écologie populaire ? Elle apporte une réponse claire.
et elle cite une référence, l'Arche de Noé de Malcolm Ferdinand. Chercheur au CNRS, il y pointe les failles d'un environnementalisme.
Pour moi, l'écologie populaire, donc, ça parle du fait que dans les quartiers populaires, dans les pays du sud global, on a aussi des superbes idées. Mais forcément, c'est des idées qui ne sont pas, on va dire, nées en milieu occidental. Donc ça n'a pas été littéralement légitimé, mais c'est des choses qui se passent déjà parce qu'on sait qu'on subit aussi les conséquences du changement climatique. Les campagnes de l'ONU, par exemple, pour trier, non, on les avait depuis longtemps. Nos parents trient, nos parents réutilisent des fringues des frères et sœurs.
Et la définition de Priscilla, coordinatrice du Front de mer à Rennes.
C'est aussi considérer que l'écologie, c'est la question de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, comment on crée des solidarités entre nous, qui respectent aussi nos cultures alimentaires et qui en même temps sont ouvertes vis-à-vis du monde rural qui produit de l'alimentation en fait. C'est pour ça que par exemple ce soir on organise une causerie avec différents acteurs de l'agroécologie.
Trois canapés alignés, des tisanes de la ferme associative des loupiottes entre les mains, la causerie commence. Autour de la table, plusieurs intervenants. Accueil paysan de Layet, collectif d'exilés maraîchers, la ferme du Turfu, et Eva Muratoré. Un mot-clé ouvre le débat, la solidarité alimentaire. Pour Elisa, médiatrice de la causerie, cette solidarité passe par une amélioration de l'action caritative alimentaire.
Même les aides qu'on leur donne, c'est des nourritures qu'on n'aurait jamais achetées. Des boîtes de conserve, de mauvaise qualité. Et pour tout ça, ce sera évoqué lors de la causerie, pourquoi on a cette attitude encore très 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 biaisée ou je sais pas colorée de mépris de glace ou peu importe. Même si quand on donne encore des choses qu'on n'aurait jamais achetées à la maison. Et pourtant on sait qu'il y a des gens derrière.
Autre ambition de cette causerie, créer du lien entre quartier populaire et ruralité. Et montrer que l'expertise alimentaire ne vient pas uniquement des institutions ou des exploitations agricoles, elle existe déjà dans les quartiers. Une conviction portée par Didier Labou, administrateur accueil paysan Ille-et-Vilaine.
Le but premier, c'est de quand même de rapprocher la ville et la campagne. Et à travers les accueils qu'on peut faire en accueil paysan, on travaille sur l'alimentation. J'ai souvenir d'un gamin qu'on accueillait, comme ça on épluchait des patates ensemble à midi. Puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, tu vois, on épluche des patates et je vais faire de la purée. Il me regarde, il me dit, mais tu mets des patates dans ta purée? J'ai dit, oui, pourquoi, maman? C'est un sachet, mais je ne sais pas. Les gens sont éloignés de ce qu'est l'agriculture, de ce qui les nourrit et de ce qu'ils mangent. Et se nourrir sainement est un droit. Ça paraît tellement évident dans un pays où on est riche, où il y a des gens qui ne mangent pas correctement.
Dans un coin de la salle, une cartographie alimentaire réalisée par des maires du quartier de Morpa attire notre regard. On y lit les points à déconstruire.
On voit bien leur expérience d'identifier dans cette carto, où est-ce qu'elles vont faire leurs courses, vont prendre un café, qu'elles vont manger, où est-ce qu'elles ne vont jamais aussi. L'offre alimentaire, elle n'est pas complètement satisfaisante dans notre quartier, quoi. Il y a encore des obstacles, des résistances, des appréhensions.
Les inégalités écologiques ne se jouent pas uniquement dans l'assiette. Elles traversent le quotidien, comme pour Elisa, dans les boutiques solidaires de seconde main ou troisième main.
Moi, en tant que femme racisée, quand je viens de ces boutiques-là, on me voit tout de suite comme la nana très très pauvre, qui vient pas juste pour avoir des vêtements. Nous, on voit ça par acte purement militant en se disant « j'achèterai pas des neufs, j'y vais parce que j'ai besoin de vêtements ». Voilà. Même l'accueil dans ces milieux-là, alors qu'on se dit c'est une boutique solidaire, des gens censés relativement être ouverts d'esprit, et bien non, les regards condescendants, même en milieu solidaire.
La soirée s'achève autour du repas. La soupe sera accompagnée de plusieurs mets aux saveurs mahoraises préparées par Zali. Ce soir, c'est banane plantain, nem et riz pilao.
Voilà, à l'instant, ce reportage sur cette rencontre dédiée à l'écologie populaire organisée dans le quartier de Morpa, à Rennes. Pour aller plus loin sur cette notion d'écologie populaire et sur les clichés persistants de la non-prise en compte de l'écologie par ces classes populaires, Héloïse Descartes de Silab à Rennes s'est entretenue avec Edith Gaillard, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Bretagne Occidentale.
Pour commencer par la base, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'écologie populaire et revenir sur les origines de cette notion?
Alors c'est une notion quand même un peu délicate. Est-ce que le populaire c'est le peuple? Est-ce que le populaire c'est une traduction de quartiers populaires où il y a une fraction des classes populaires qui se retrouvent dans les quartiers d'habitat social. Et puis, ce vocable, parfois il est utilisé pour articuler justice sociale et justice environnementale, ou bien pour qualifier et travailler l'écologie telle que pratiquée par les classes populaires. Donc il y a un usage un peu pluriel, mais c'est une notion qui s'est imposée pour mettre en visibilité les préoccupations environnementales des catégories populaires et surtout requalifier leurs pratiques de consommation qui sont stigmatisées ou disqualifiées par l'ensemble social, malgré, comme vous l'avez dit en introduction, un impact environnemental bien moindre que celui des classes aisées.
Alors, vous êtes intéressé plus particulièrement au mouvement des Gilets jaunes, qui est né, on le rappelle, en opposition à la taxe carbone qui avait été proposée par Emmanuel Macron en 2018. Expliquez-nous en quoi cette révolte est représentative des valeurs de l'écologie populaire, alors qu'on pourrait croire à première vue que les Gilets jaunes, ils sont plutôt anti-écolo.
Alors, je pourrais pas dire en quoi cette révolte et représentative des valeurs de l'écologie populaire. Tant l'écologie populaire, alors il faut insister là-dessus, mais il n'y a pas d'unité de compréhension dans cette notion. C'est vraiment quelque chose de pluriel et avec justement aussi des approches qui se veulent, je vais utiliser des gros mots, mais décoloniales, antiracistes, intersectionnelles. Mais effectivement, j'ai travaillé sur les femmes engagées dans le mouvement des Gilets jaunes sous l'angle de leur mode de vie. Ces femmes, elles ont d'emblée été disqualifiées, d'emblée été pointées comme refusant les mesures prises en faveur de l'écologie, comme refusant les efforts à consentir dans la lutte contre le changement climatique, le réchauffement climatique, et tout simplement, elles ont été taxées d'anti-écologie. Et c'est à partir de cette disqualification symbolique que j'ai essayé de rendre compte de leur engagement pour, si je reprends les célèbres slogans, une justice sociale et fiscale, une planète plus verte et un compte moins rouge, et tout ça en pleine conscience des enjeux contemporains de l'urgence climatique et de la crise environnementale.
Il y avait aussi cette idée qui est beaucoup revenue dans le mouvement des Gilets jaunes de ne pas faire la différence entre la fin du monde et la fin du mois, et qui reliait un peu les problématiques environnementales aux problématiques sociales, ce qui au final est un peu la définition de l'écologie populaire comme vous nous l'avez faite au début. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont très concrètement les pratiques ou les valeurs de ces femmes et surtout, est-ce qu'elles-mêmes les perçoivent comme écologiques?
Ces femmes issues des catégories populaires mettent en œuvre des actions, des gestes, des pratiques attestant déjà d'une forte sobriété dans leur mode de vie, posées comme des actions d'économie de bon sens. Le mot de bon sens, et je le reprends à Jean-Baptiste Combi, c'est vraiment la manière dont elles exposent leur rapport, leur rapport à l'écologie. Elles n'utilisent pas le mot d'écologie. C'est vraiment comme ça qu'elles rendent compte de leur mode de consommation, du rapport à l'environnement, du rapport à la nature, du bon sens. Et donc l'écologie, faire pour le climat, climatiser une sobriété largement contrainte, n'a aucun sens pour elles. Elles n'ont pas besoin d'inscrire leur mode de vie dans un récit climatique ou écologique qui relève bien souvent d'une vision technique d'experts, très lointaine de leurs préoccupations quotidiennes et abstraite pour se les approprier en fait.
Dans mes recherches, j'ai pu lire que certains chercheurs et chercheuses parlent de dépossession écologique.
Alors la dépossession écologique, c'est cette idée qui est là pour traduire la distance que les catégories populaires ont avec les récits écologiques dominants. J'homogénise un peu les catégories populaires, mais il faut avoir en tête une disparité. Il faudrait rentrer un peu plus finement dans cette catégorie. Mais si elles ont un fort intérêt pour l'environnement immédiat, la réduction des déchets, l'alimentation, qu'est-ce qu'on va donner à manger à ses enfants, de la malbouffe, des pesticides, et moins pour les questions plus abstraites, des émissions de gaz à effet de serre. C'est davantage un goût du concret pour le concret.
Et quand vous commencez à s'intéresser à l'écologie populaire, il y a très vite le terme d'éducation à l'environnement qui arrive sur la table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'éducation à l'environnement est devenue une partie intégrante de l'écologie populaire? Et puisqu'on parle des femmes en particulier, comment expliquer que ce soit en grande majorité des femmes qui s'emparent de ce sujet?
Alors effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai relevé dans plusieurs recherches. Qui est cette attention à l'éducation, à la transmission, et avec vraiment l'idée de convaincre par l'éducation et la pédagogie, donc son entourage premier, sa famille, mais également ses voisins. Et elles disent qu'il est possible, il est déjà possible d'agir à son niveau, à l'échelle du quartier, en montrant l'exemple à son entourage. Et effectivement, ce sont des femmes qui portent ce discours-là. Et moi, je le comprends par ce rapport à la filiation qu'elles mettent en avant. Avant d'être femmes, elles se présentent comme mères, elles se présentent comme grand-mères, et que leurs actions sont liées à justement leur place de mère et de grand-mère, et que ça fait partie de leur rôle social que d'agir sur l'environnement immédiat et de le transmettre ensuite à son entourage.
Et oui, nous, l'exemple concret ici sur notre territoire à Rennes, c'est l'association Front de Mer qui a une antenne dans certains de nos quartiers. Et le mot mer est même dans le nom de l'asso qui s'occupe notamment d'éducation à l'environnement. Donc c'est vrai que ça se recoupe complètement. On arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Edith Gaillard. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Bretagne Occidentale et que vous êtes rattachée au laboratoire d'études et de recherches en sociologie. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récits d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.